Et bonne soirée avec nous sur France Inter, il est 19h. Le journal, c'est Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. La colère et les questions, 5 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol. Marche entre palais de justice et préfecture. Ce soir, le préfet promet la liste des produits incendiés. Il parle de 160 fûts encore à évacuer. Nous sommes à Rouen, dès le début du journal. Les 70 ans de la Chine communiste, perturbés à Hong Kong, un blessé par balle pendant les manifestations pour la démocratie. Sur toutes les télés étrangères à Pékin, alors que des chars défilent place Tiananmen. Au sommaire également ce soir, Nicolas Sarkozy au tribunal pour le financement de sa campagne de 2012. Marion Maréchal qui renonce à celle de 2022. Les Russes moins portés sur la boisson depuis que Poutine est au Kremlin. Le PSG face au bouillant Galatasaray en Ligue des Champions. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, les policiers d'habitude sont plutôt de l'autre côté du cortège. Demain, ils manifestent pour parler de leur épuisement, pour parler de leurs horaires, de leur matériel. Les policiers sont au bout du rouleau. Vient s'ajouter à cela une image dégradée. Depuis la multiplication des manifestations, on en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
Ils sont à la fois inquiets et en colère, les habitants de Rouen et de ses environs, 5 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol. Des dizaines de fûts d'huile et d'additifs partis en fumée et toujours des odeurs d'essence, d'œufs pourris qui donnent des nausées et des maux de tête. Le préfet vient de dire que 160 bidons dans un état délicat restent à évacuer. Il promet que la liste des produits qui ont brûlé sera mise en ligne sur le site de la préfecture et qu'il n'y a pas de risque avéré à l'amiante. On en est là. Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir Sébastien.
Et plusieurs centaines de personnes marchent tout de même en ce moment entre le palais de justice à Rouen et la préfecture.
Oui, sous la pluie des manifestants qui demandent deux choses, la transparence et la vérité, et qui dénoncent un quotidien invivable. C'est le cas de Fantine, 17 ans, lycéenne, un masque à gaz blanc sur la bouche.
Lundi matin, quand on est allé en cours, les marches du lycée étaient noires. Quand on rentre dans le lycée, ça pue l'hydrocarbure. Dans les toilettes, j'en parle pas, j'ai failli vomir. C'était horrible, c'était intenable. Et on nous disait, mais non, le lycée est pas fermé. Ils étaient censés nettoyer les lycées, mais rien n'a été nettoyé.
À côté de Fantine, Nathanaël, un an de plus, larme verte tatouée sous l'œil gauche. Elle est venue pour manifester en solidarité avec les salariés de Lubrizol.
Ma mère travaille à Lubrizol et en gros je suis aussi ici pour faire la différence entre les salariés et l'entreprise qui a brûlé parce que en soi ma mère se reçoit plein d'insultes à la tronche, ses collègues sont partis en pleurant, se font interpeller sur les parkings. C'est aussi une charge psychologique relativement importante à assumer. En plus de la culpabilité d'être dans une entreprise qui fait partie des plus grands polluants.
Marc a 50 ans de plus que Fantine et Nathanaël. Il a fait toute sa carrière à des postes à responsabilité dans l'industrie chimique. Et c'est la première fois qu'il descend dans la rue depuis mai 68.
Moi, je suis révolté, vraiment, sincèrement. Je pense que les autorités font pas leur boulot. On est à quasiment une petite semaine du drame. La liste des produits, on la connaît tout de suite. On ne met pas une semaine pour avoir la liste des produits, c'est faux. Et non seulement on a la liste des produits, mais on a la liste des risques. C'est assez révoltant, on prend vraiment les gens pour des pingouins. Quoi.
Un constat partagé par l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot. Il vient pour la première fois à Rouen depuis l'incendie et s'étonne de la persistance des odeurs.
Ça pue, on a l'impression d'être à la sortie d'un pot d'échappement. Et ça fait 6 jours que le gouvernement entretient des formes de confusion. Les habitants, ils attendent qu'on leur parle et non pas qu'on leur fasse de la communication.
Et pour le sans beaucoup de doute futur candidat à la présidentielle de 2022, si la préfecture a décidé de publier ce soir les résultats des analyses des composants présents dans la fumée de l'incendie, c'est grâce à la mobilisation populaire.
Thibault Lefèvre avec François Rivalan en direct de Rouen. Merci à tous les deux. Le gouvernement promet aussi que les résultats d'analyse sur les conséquences sanitaires seront publiés dans les 2 jours. On verra demain à 8h20 sur Inter si la ministre de la Santé Agnès Buzyn les a. Son collègue de l'agriculture Didier Guillaume promet lui les premières indemnisations sous 10 jours. 1800 agriculteurs au moins sont touchés par les pluies tombées, les suies tombées sur leurs champs. Ils doivent jeter leur lait et autres productions. Et puis ce soir, le parquet de Rouen passe l'enquête au pôle de santé publique du parquet de Paris. Plus de 40 plaintes ont déjà été transmises ou sont en cours de transmission, nous dit-on.
Le 70e anniversaire du régime chinois gâché à Hong Kong.
La Chine parade à Pékin et défouraille dans les rues de l'ancienne colonie britannique. Un manifestant blessé par un tir à balles réelles en marge d'un cortège pro-démocratie. Un policier dont l'unité était prise à partie a ouvert le feu à une dizaine de kilomètres du centre-ville. L'hôpital parle au total de 15 blessés. Alors que place Tiananmen, on fête les 70 ans du régime communistes, drones, missiles, bombardiers au milieu de 15 000 soldats en fanfare. Sur place pour Inter, Dominique André.
Ce matin, dans la tribune officielle place Tiananmen, la chef de l'exécutif local hongkongais, Carrie Lam, sourit au passage du char représentant Hong Kong. La télévision chinoise saisit cette séquence surprenante au moment où de nouvelles manifestations éclatent dans le territoire autonome. Toutes les chaînes de télévision étrangères retransmettent les images de scènes de bataille de rue entre manifestants et forces de l'ordre, sauf les médias officiels chinois. Les chefs de file de la contestation hongkongaise avaient prévenu qu'ils gâcheraient la fête de Pékin. Xi Jinping, qui vit un défi sans précédent depuis son arrivée au pouvoir en 2012, était attendu sur ce sujet explosif dans son discours. Il a rappelé que la Chine doit continuer d'aspirer à la réunification complète de la patrie.
Nous avançons sur notre chemin pacifique de l'unité du territoire et nous allons continuer à appliquer de façon totale et sincère le principe un pays, deux systèmes et nous agirons en stricte conformité avec la Constitution et la loi fondamentale hongkongaise.
Pas de célébration pour la fête nationale, seulement une journée de deuil national, ont scandé les manifestants de Hong Kong aujourd'hui. Pékin, Dominique André, France Inter.
Et à propos des violences à Hong Kong, Londres trouve le recours aux balles réelles disproportionné. L'Union européenne appelle à la désescalade et à la retenue.
L'ancienne Chiraki et ses rendez-vous avec la justice.
D'abord Nicolas Sarkozy, qui sera bien jugé en correctionnel pour financement illégal de campagne électorale. Dans l'affaire Big Malion, la Cour de cassation rejette le dernier recours de l'ancien président de la République. Il aura donc rendez-vous au tribunal pour s'expliquer sur le trop-plein de dépenses de sa campagne de 2012. Plus de 20 millions d'euros au-dessus du maximum autorisé. Décision erronée pour le trésorier des Républicains, Daniel Fasquel, ici au micro de Cécilia Arbonne.
On sait très bien qu'à l'époque, il était président de la République en exercice, en campagne, et ces questions d'intendance n'étaient pas de son ressort et pas de son niveau. Enfin, quand on est président de la République, on ne compte pas les chaises dans les meetings où on ne mesure pas la taille des salles. Donc il faut être un tout petit peu sérieux. Donc Nicolas Sarkozy, dans cette affaire, pour moi, rien à se reprocher. Par contre, effectivement, il y a eu à l'époque un vrai dérapage au sein de l'UMP.
Ce dérapage, il consistait en quoi ? C'était un système mis en place dont vous n'aviez pas connaissance ?
Moi, à l'époque, je n'avais aucune responsabilité, ni dans la campagne Nicolas Sarkozy, ni au sein de l'UMP à l'époque. J'étais nommé trésorier bien plus tard. Donc oui, il y a eu un système de double facturation, de fausse facturation. Mais Nicolas Sarkozy n'est évidemment pour rien dans ce système dont il n'avait pas connaissance, qu'il n'a pas pu approuver. Et comme souvent, d'ailleurs, s'agissant des affaires qu'on a agitées autour de Nicolas Sarkozy, vous verrez que ça se terminera par un non-lieu, j'en suis convaincu.
Édouard Balladur sera, lui, jugé dans le volet financier de l'affaire Karachi. La Cour de justice de la République renvoie l'ancien Premier ministre et son ancien ministre de la Défense, François Léotard, pour complicité d'abus de biens sociaux. C'est l'enquête sur un possible financement occulte de la campagne présidentielle de 95. La politique des années à venir, maintenant, avec cette annonce qui fait pchit, comme aurait dit Jacques Chirac, Marion Maréchal ne sera pas candidate à la prochaine présidentielle en 2022. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
La nièce de Marine Le Pen laissait croire qu'elle allait y aller depuis les européennes. Eh bien, finalement...
Et oui, tout ça pour ça. Fin du feuilleton, Marion Maréchal va retourner dans sa modeste école de sciences politiques à Lyon. Et on se demande bien pourquoi elle a développé samedi dernier à Paris devant un millier de personnes un projet politique en 5 défis en concluant « Demain, nous serons au pouvoir ». Et ce matin, en un tweet, elle douche l'espoir de tous ceux qui ne croient plus en Marine Le Pen et voyaient en elle la relève. Alors pourquoi se retire-t-elle maintenant? Parce que sa tante tient la maison, elle verrouille tout et cogne très fort par médias interposés. Marion Maréchal s'attendait à un meilleur accueil, parce que les sondages de popularité ne sont pas si extraordinaires que ça, parce que l'union des droites dont elle rêve, c'est beaucoup plus compliqué que prévu, les LR ont beau être à 8%, les élus tiennent encore le cordon sanitaire, et parce qu'au fond, à 29 ans, elle n'avait autour d'elle pas suffisamment de carburant, d'argent, de réseau, de stratège pour affronter sa tante et une campagne présidentielle. Elle laisse donc Marine Le Pen seule en piste vers 2022, ça paraît être une bonne nouvelle, mais non, la présidente du RN ne l'accueille pas ainsi, toujours méfiante. Elle a l'air de se demander à quoi joue sa nièce. Et elle qui a besoin d'adversité pour avancer, pour être challengée, perd finalement sa meilleure ennemie. Elle aimait s'en distinguer pour se valoriser.
Et on reste dans la famille demain à 7h50. C'est Jean-Marie Le Pen qui sera l'invité de France Inter. Merci Maxence. Le parquet national antiterroriste se saisit de l'enquête sur le nouveau FLNC. Ce groupe de 5 personnes qui se présente comme le nouveau Front de Libération Nationale de la Corse, qui a pourtant déposé les armes il y a 5 ans. Conférence de presse clandestine, masquée et armée de nuit dans un sous-bois et vidéo transmise à Corse Matin. Les 5 hommes ne se revendiquent du manifeste historique de 76. Ils promettent de ne s'en prendre qu'au bien. Parmi leurs revendications, l'interdiction interdiction d'achat de maisons aux non-Corses et la limitation du tourisme. Le coup de colère de l'Union syndicale des magistrats majoritaires dans la profession, coup de colère contre les dysfonctionnements des extractions judiciaires, les transferts de détenus entre prison et tribunal gérés par l'administration pénitentiaire et non plus par les gendarmes depuis 2010. Le passage de relais se termine en novembre. Il faut une évaluation d'urgence pour la présidente de l'USM, Céline Parisot, avec Corinne Audouin.
Il y a plein d'exemples, malheureusement. D'une part, des collègues qui renoncent à demander l'extraction d'un détenu et qui vont, par exemple, procéder eux-mêmes à une audition en détention. Donc, ils vont se déplacer à un juge d'instruction de Marseille, comme ça, et aller rendre visite à un détenu à Lyon parce qu'il n'arrivait pas à le faire venir jusqu'à son cabinet.
Il y a aussi des procès qui ne peuvent pas se tenir.
Effectivement, il y a des détenus qui ne peuvent pas être jugés. Par exemple, en comparution immédiate, on incarcère quelqu'un, par exemple, le vendredi soir. Il doit être jugé le lundi. Ça, c'était à Lille. Le lundi, la personne ne peut pas venir parce qu'aucune escorte ne peut l'amener, alors qu'on est quand même dans un cas d'agression sexuelle. Hein. On a une victime qui est présente. Le tribunal donc ne peut pas le juger et du coup, il est obligé de le remettre dehors. Mais ça donne une image assez terrible parce que finalement, on a des victimes qui viennent, qui attendent à l'audience pour rien, puisque peut-être que la personne ne pourra jamais être amenée et donc elle ne sera pas jugée à ce moment-là. Elles vont devoir encore revenir plus tard.
Air France dégaine ses vols verts. La compagnie promet de compenser les émissions de CO2 de tous ses vols intérieurs à partir de l'an prochain par des participations à des projets certifiés par des organismes reconnus, notamment des plantations massives d'arbres. Alors on s'interroge, Philippe Lefebvre, réel virage écologique ou greenwashing ?
La directrice générale d'Air France a désormais la main verte puisqu'elle a confirmé sa volonté de compenser les émissions de CO2 des 500 vols intérieurs quotidiens de la compagnie en finançant la plantation d'arbres ou en contribuant à la mise en place de plans de protection des forêts. Mais elle n'a pas donné plus de précisions quant au nombre d'arbres qui pourraient être ainsi replantés chaque année, à quel endroit et surtout combien coûterait cette opération et qui la financerait. Air France, en rognant sur ses marges, ou les clients en payant leurs billets sensiblement plus cher, des clients qui payent déjà beaucoup de taxes puisqu'elles représentent au moins 40% du prix moyen d'un billet. Et comme d'autres compagnies avant elle, Air France met désormais du vert dans sa communication pour répondre à une certaine forme de défiance des consommateurs. Et d'ailleurs Jean-Pierre Masse, le président du syndicat des entreprises du voyage, précisait tout à l'heure qu'au moins 9% des clients des agences de voyage déclaraient vouloir modifier dans l'avenir leur façon de voyager, par exemple en se passant de l'avion. Car visiblement aujourd'hui, dire que l'on fait voler ses clients dans des avions qui consomment 20 à 25% de carburant en moins, ça n'est plus suffisant. Au Salon Topresa, à la Porte de Versailles, Philippe Lefebvre, France Inter.
Thomas Cook entraîne ses filiales dans sa chute, filiales belges en faillite et françaises en redressement judiciaire. 780 employés concernés dans l'Hexagone, 500 en Belgique. Le voyagiste assure que plusieurs repreneurs sérieux sont déjà sur les rangs en France. Cette vaste opération de sauvetage, maintenant on est entre la Martinique et les Açores dans l'Atlantique, où un remorqueur a coulé jeudi dernier. Il y avait 14 membres d'équipage à bord. Bonsoir Béatrice Duguay.
Bonsoir.
Trois survivants ont été repêchés et les secours s'activent pour en retrouver d'autres.
10 navires commerciaux mobilisés sur zone à tour de rôle depuis le début des opérations de sauvetage. Au cœur du dispositif, la frégate Ventos de la Marine nationale. Elle coordonne le quadrillage de 40 zones de recherche autour de l'endroit où le Bourbon Rhodes a coulé il y a 5 jours maintenant, loin de toute terre. Son hélicoptère Panther, un Falcon 50 de la Marine, un Hercule C-130 des gardes-côtes américains survolent le secteur, même brièvement l'avion du centre de surveillance des ouragans. Alors depuis le premier canot récupéré samedi avec 3 hommes sains et saufs à bord, les nouvelles ne sont pas bonnes. Les corps sans vie de 3 membres d'équipage ont été repêchés. Restent 8 disparus ce soir. Le Bourbon Rhodes est normalement un navire robuste, puissant, remorqueur pour les tankers de l'industrie pétrolière et gazière offshore. Il s'est trouvé en difficulté avec une voie d'eau dans une mer démontée, visibilité très faible, dans la queue de l'ouragan Lorenzo de catégorie 4 jeudi dernier. Secours vite déclenché, un vraquier battant pavillon des îles Marshall a changé de route pour arriver sur zone vendredi. Le bateau a lui coulé jeudi. Les marins ukrainiens, pour la plupart, ont eu le temps de grimper dans 4 canots de sauvetage. Un seul secouru pour l'instant.
Béatrice Duguay, des mannequins démembrés devant le consulat d'Arabie Saoudite à Paris. Ces Reporters sans frontières qui fêtent à sa manière le premier anniversaire du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul. RSF réclame toujours la vérité sur cet assassinat. Depuis Riyad, l'un des fils de Khashoggi assure qu'il fait pleinement confiance à la justice de son pays. Eux doivent-ils leur sobriété nouvelle à leur président. En tout cas, les statistiques sont là. Les Russes boivent moins sous Poutine, moins 43% entre 2003 et 2016, grâce aux campagnes officielles de sensibilisation, à l'interdiction de vente d'alcool après 23 heures et à l'augmentation des prix. Même si dans les faits, Claude Brouillot, tout n'est pas aussi rose.
Pour avoir voulu combattre le fléau de l'alcoolisme, les autorités russes actuelles, un peu comme Mikhail Gorbatchev il y a 30 ans, ont généré des comportements et des marchés qui se sont adaptés au cadre restrictif légal. Rien n'est plus facile en effet à Moscou aujourd'hui que de trouver un petit épicier, bravant l'interdiction, qui accepte de vendre discrètement de l'alcool bon marché après 23 heures. Mais surtout, il semble qu'un secteur parallèle, impossible à prendre en compte, surtout en région, se développe pour écouler des produits de moins bonne qualité, mais au tarif plus abordable. Vadim Dobryz est responsable de l'agence CIFRA, spécialisée dans l'étude des marchés de l'alcool en Russie. En 2010, les statistiques officielles prenaient en compte les achats légaux et illégaux, et on ne peut pas comparer avec aujourd'hui, car il n'y a plus de vente d'alcool de substitution. Les magasins ne vendent que des marques. Nous avons des baisses sur les ventes de vodka, pour la bonne raison que le prix de la vodka a été multiplié par 5 en 10 ans. Aujourd'hui, en réalité, la moitié des ventes de vodka s'effectue au marché noir, dont la prise en compte est impossible. Et les plus exposés, d'un point de vue sanitaire cette fois, à la consommation d'alcool bon marché non contrôlé par les autorités russes, sont évidemment ceux qui ont le moins de moyens. Moscou, Claude Brouillot, France Inter.
Et pas de lien avec cette baisse russe. Pernod Ricard annonce 190 suppressions de postes. Le numéro 2 mondial des spiritueux fusionne ses deux filiales qui desservent le marché français.
Une nouvelle polémique aux mondiaux d'athlétisme de Doha au Qatar.
Des épreuves très difficiles pour les athlètes à cause de la chaleur, des gradins quasi vides. Et maintenant le dopage qui s'invite dans la compétition. Bonsoir Vincent Pellegrini.
Bonsoir Sébastien.
Vous êtes sur place à Doha, Vincent. L'entraîneur américain Alberto Salazar, qui a un gros palmarès et des athlètes engagés au Qatar, vient d'être suspendu 4 ans pour incitation au dopage par l'agence américaine antidopage.
Oui, une enquête de 4 ans de l'USADA, cette agence américaine antidopage, qui a collecté suffisamment d'informations pour suspendre cet ancien marathonien de 61 ans. Alberto Salazar avait été mis en cause par des révélations de la presse anglo-saxonne en 2015, ce qui avait poussé l'agence américaine antidopage à lancer cette enquête. Et à l'époque, Alberto Salazar entraînait notamment le britannique Mo Farah, multiple médaillé olympique et mondial, dans son centre de l'Oregon, financé par l'équipementier Nike. Alberto Salazar est accusé d'incitation au dopage pour avoir mené des expérimentations sur ses athlètes, mais aussi sur des proches, accusés également de trafic de testostérone. Et là où cette affaire, vous le disiez Sébastien, devient très embarrassante, c'est qu'Alberto Salazar entraîne des athlètes présents ici à Doha. Deux d'entre eux participeront tout à l'heure à la finale du 800 mètres, et l'une d'entre elles, la néerlandaise Sifan Hassan, a remporté le titre mondial samedi soir sur 10 000 mètres. Elle a déclaré cet après-midi qu'elle avait la conscience tranquille. La Fédération américaine d'athlétisme, elle, a retiré son accréditation à Alberto Salazar, qui n'a plus accès au stade. Ce dernier a fait appel de sa suspension.
Et son équipementier Nike, qui travaille avec lui dans l'Oregon, vous en parliez, fait savoir dans un communiqué ce soir qu'il lui apporte son soutien. Merci Vincent Pellegrini en direct de Doha. En voici un autre de stade où il fait chaud, très chaud, en tout cas en tribune, celui des Turcs de Galatasaray à Istanbul, où vous vous trouvez. Bonsoir Bruno Salomon.
Bonsoir Sébastien.
Le PSG dispute son deuxième match de Ligue des Champions de la saison. Les Parisiens restent sur leur victoire 3-0 face au Real, mais ce sera encore un gros morceau ce soir. Hein.
Oui, alors un gros morceau Sébastien, niveau ambiance, car sportivement on ne va pas crier au génie hein, du côté de Galatasaray, un club stambouliote qui s'appuie donc sur la folie, parfois l'hystérie de ces 52 000 fans qui peuplent le Ali Sami Yenspor Kompletski, j'ai réussi à le dire. Ils vont chanter, siffler, crier pour étourdir le PSG qui va devoir surpasser cette ambiance qui s'annonce bouillante. Après, sur le terrain, le PSG a quand même la moelle, le coffre pour prendre le dessus sur cette équipe de Galatasaray, actuelle 7e de son championnat, qui est composée de nombreux joueurs ayant évolué en France, voire même où ils sont nés en France, 7 exactement. Steven Zonzi, le champion du monde, Younes Belanda, l'ancien de Montpellier, ou encore, lui c'est la vedette cette saison du Galatasaray, c'est le vieillissant Falcao, ancien joueur de Monaco, qui va tenter de bousculer ce PSG qui, lui, s'il gagne ce soir son deuxième match en deux journées de Ligue des Champions, pourrait parler de démarrage parfait.
Bruno Salomon en direct d'Istanbul. C'est comment le nom du stade, Bruno? Non, je déconne.
Le Ali Sami Yen Sport Kompletski.
Oh, deux fois, vous êtes trop fort. Bravo. À tout à l'heure pour le match début à 21h. Merci Bruno Salomon. Je termine en vous disant qu'il y a 9 romans dans la deuxième sélection du Goncourt, dont celui d'Amélie Nothomb, Soif, qui est en tête des ventes, ainsi que Le ghetto intérieur de Santiago Amigorena, ou encore celui de Jean-Paul Dubois, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Le verdict, c'est le 4 novembre.
Et nous y serons bien sûr, Sébastien Paour et le journal. Merci beaucoup, à demain. À demain Sébastien. Nous, on poursuit la soirée ensemble avec Le téléphone sonne, ne changez rien.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Même le mardi, figurez-vous. Encore des averses orageuses ce soir.
Oui, surtout du Languedoc-Roussillon vers la région Rhône-Alpes en ce moment. Alors, elle se décale vers la Côte d'Azur et la Corse ce soir et cette nuit. Demain, le réveil sera souvent encombré. Quelques averses, plus nombreuses des Pyrénées jusqu'au nord des Alpes et au Jura. Quelques flocons au-dessus de 2300 mètres. Le soleil sera quand même de retour autour de la Méditerranée. Et puis, il fera encore assez doux le matin, 10 à 18 degrés.
Et l'après-midi?
Alors, toujours quelques averses qui résisteront des Pyrénées vers le nord-est et Rhône-Alpes. En Méditerranée, du soleil et du vent. Peut-être une petite averse pour la Côte d'Azur, pour la Corse, et puis de l'océan vers le bassin parisien, les frontières belges et luxembourgeoises. Là, ça s'arrangera. Retour d'éclaircies très belles près de la Manche. Et il fera plus frais, 13 degrés au Havre, 14 à Lille, 16 à Paris, 18 à Angers, Mulhouse, Lyon, 21 à Agen et encore 25 à Toulon.
Élodie Calac de Météo France. Merci beaucoup, Élodie.